Nous prions. Au moment d'ouvrir ton livre, Seigneur, nous te prions. Nous te prions de nous donner la foi et l'intelligence de ces textes que des hommes entre le Xe siècle avant notre ère et le premier siècle après la naissance de ton Fils ont rédigés, inspirés par toi, mais qu'ils ont pu percevoir et transcrire à travers le prisme des époques où ils vivaient. Permets-nous de percer le brouillard du temps. Je vous invite à écouter deux textes. J'avais prévu trois, mais ça fait un peu trop long. Alors, d'abord dans le Deutéronome, chapitre 10, verset 12, jusqu'au chapitre 11, verset 1. C'est un des textes recommandés dans le lectionnaire d'aujourd'hui. Et il n'est pas sans lien avec la prédication qui va suivre. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu attend de toi ? Il attend seulement que tu craignes le Seigneur ton Dieu en suivant tous ses chemins, en aimant et en servant le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, en gardant les commandements du Seigneur et les lois que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur. Oui, au Seigneur ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Or, c'est à tes pères seulement que le Seigneur s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur descendance, c'est-à-dire vous, qu'il a choisi entre tous les peuples, comme on le constate aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur, vous ne raidirez plus votre nuque, car c'est le Seigneur votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, l'impartial et l'incorruptible, qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'émigré en lui donnant du pain et un manteau. Vous aimerez l'émigré, car au pays d'Égypte, vous étiez des émigrés. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras et que tu serviras, c'est à lui que tu t'attacheras, c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta louange, il est ton Dieu, lui qui a fait pour toi ces choses grandes et terribles que tu as vues de tes yeux. Tes pères n'étaient que 70 quand ils sont descendus en Égypte, et maintenant le Seigneur ton Dieu t'a rendu aussi nombreux que les étoiles du ciel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu garderas ses observances, ses lois, ses coutumes et ses commandements tous les jours. Et, seconde lecture, Livre des Actes, chapitre 8, versets 26 à 40. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe. « Tu vas aller vers le midi, lui dit-il, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe partit sans tarder. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage, retournait chez lui. Assis dans son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe y courut, entendit l'eunuque qui lisait, le prophète Ésaïe, et lui dit, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?»« Et comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai pas de guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir près de lui. Et voici le passage de l'Écriture qu'il lisait. Comme une brebis que l'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond, c'est ainsi qu'il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, il a été privé de son droit. Sa génération, qui la racontera ? Car elle est enlevée de la terre, sa vie. S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, « Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe ouvrit alors la bouche. Et partant de ce texte, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Poursuivant leur chemin, ils tombèrent sur un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Il donna l'ordre d'arrêter son char, tous les deux descendirent dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Mais il poursuivit son chemin dans la joie. Quant à Philippe, il se retrouva à Azotos et il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée, jusqu'à Césarée. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Guide-nous par ta parole. Aide-nous à la comprendre tant de siècles après qu'elle éclaire chaque jour de nos existences. Je vous invite à un voyage dans le temps. 2000 ans en arrière, Sur cette terre qui s'appelle aujourd'hui Israël, qui s'appelait alors la Judée, et que les Romains rebaptiseront Palestine un siècle plus tard, pour rebaptiser la Judée, terre des Juifs, en Palestine, terre des Philistins, parce qu'ils avaient quand même subi 3 révoltes juives en 100 ans. Nous serons guidés par le style vif et alerte de Luc, le rédacteur supposé du troisième évangile et du livre des Actes, qui est aussi supposé avoir été médecin et compagnon de voyage de Paul. Nous imaginons très bien ce riche ministre des Finances d'Éthiopie, allongé dans sa litière sur de moelleux coussins, balancé par le pas de sa caravane, lisant un livre, et qui invite Philippe, un curieux autostoppeur avant la lettre, que l'on peut supposer locteux, à venir lui expliquer ce qu'il est en train de lire. Un bref échange suivi d'un baptême, ça n'a pas l'air très original, hein, le Nouveau Testament abonde de ce genre d'anecdotes, c'est pas péjoratif. Pourtant, on peut y voir un basculement du christianisme, une véritable révolution au sein de la jeune Église. Je vais essayer de vous expliquer ce qui me fait dire cela. Quelques mots sur le cadre historique. Nous sommes tout à fait au début de l'épopée chrétienne, dans ce chapitre 8 des Actes, du livre des Actes des apôtres. Les apôtres, à ce moment-là, sont encore de ce monde, sauf Judas, bien entendu, qui a été remplacé par Matthias. Étienne, qui était l'un des 7 diacres, avec Philippe, notre héros, vient juste d'être lapidé à la fin du chapitre précédent. Saül, qui approuvait ce meurtre, nous dit le texte, ne prendra le chemin qui va le mener à Damas, et il deviendra l'apôtre Paul, qu'au chapitre suivant, numéro 9. Nous sommes exactement entre la mort du premier martyr et la vocation de Paul. Selon les bons auteurs, Étienne aurait été lapidé en 33-34, soit 3 à 4 ans après la crucifixion de Jésus. Nous sommes vraiment au tout début de l'aventure. À quoi ressemble cette première communauté chrétienne ? Je dis chrétienne pour simplifier, le mot n'existait pas encore. Luc nous l'a décrit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Tout était commun entre eux. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, c'est à l'entrée du temple, mais aucun des autres n'osait se joindre à eux, même si le peuple disait le plus grand bien d'eux. On voit que ces saints hommes font un peu peur. Nul n'ose se joindre à eux. Cette communauté soudée ressemble à ce que nous appellerions une secte. La pensée est unique, hein, ils ont un cœur et une âme. Je vous rappelle le triste sort d'Ananias et Saphira, qui ont été foudroyés, peut-être par la colère divine, pour avoir dissimulé aux yeux de Pierre et des autres apôtres une partie de leur avoir, au lieu de tout apporter au pot commun. Au moment où nous nous situons, il s'agit bien encore que d'une nouvelle secte juive. Les termes chrétien et christianisme ne seront inventés qu'une dizaine d'années plus tard. Nos 12 apôtres prennent leur mission très au sérieux. Trop peut-être. À tel point que, pour se débarrasser de mesquins problèmes d'intendance et de plans de table entre les veuves, ils ont désigné 7 hommes pleins d'Esprit Saint et de sagesse, les 7 diacres, pour se charger du service des tables. Là, c'est dans le concret. Hein. Nos 12 apôtres servent la parole de Dieu et l'Évangile pour elles-mêmes et non pour servir à table. Ne s'éloignent-ils pas du vrai message ? Ils semblent avoir oublié un autre texte d'Ésaïe, chapitre 56, donc tout proche de celui que lit l'eunuque, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je suis un arbre sec ». Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Jésus lui-même citera ce passage, bien entendu, lorsqu'il va chasser les marchands du temple, dans cet épisode bien connu. Vous avez fait de ma maison un repaire de brigands. Et Jésus même réalisera la vision du prophète Ésaïe en félicitant un centurion romain, ça c'est dans l'évangile de Luc, et en établissant Marie de Magdala, sa messagère, en quelque sorte l'apôtre des apôtres, après la résurrection. Ça c'est le récit que fait Jean. Ça aurait dû mettre fin au sexisme dans l'Église, il faudra attendre un peu. À la décharge des apôtres, à cette époque, il est vrai qu'il est difficile de s'écarter d'une lecture littérale des Écritures. Si l'on se sent libre d'interpréter par soi-même la Bible, comment faire pour savoir si l'on est bien dans la vérité ou si on invente? Et si chacun fait son interprétation, ne mettons pas en danger la jeune communauté chrétienne. Luther et le libre examen, ce sera 1500 ans plus tard. Alors, nous en arrivons à notre histoire de la rencontre improbable de Philippe et de l'eunuque. Alors, Philippe, c'est pas l'apôtre Philippe, il y a un apôtre Philippe, pourtant c'est l'un des diacres, chargé du service de table, comme je vous le disais. Il n'a pas l'autorité des apôtres, un peu comme moi. Je ne suis pas pasteur, mais je prends la parole ce matin. Ça s'appelle le sacerdoce universel, pour ceux qui ne sauraient pas. L'eunuque est un Éthiopien de passage. Il n'a pas vocation à intégrer la communauté juive, ni donc la communauté chrétienne, qui à l'époque se distinguait mal. Il est venu à Jérusalem pour adorer, c'est une autre traduction, mais l'accès du temple lui est interdit par la loi de Moïse. Pourquoi ? Parce qu'il est étranger et parce qu'il est eunuque. Être eunuque, c'est-à-dire ni homme ni femme, c'est pire que s'il était une femme, ce qui n'est pas peu dire à l'époque. Il doit s'agir de ce que je mentionnais tout à l'heure, un craignant Dieu, un de ces païens, assez nombreux à l'époque, qui s'intéressait au monothéisme et suivait les travaux de la synagogue. C'est pourquoi il lit le livre d'Ésaïe. Évidemment, le Nouveau Testament à l'époque n'existait pas. Aucun texte du Nouveau Testament n'avait encore été écrit. Paul n'écrira ses épîtres qu'une quinzaine d'années plus tard. Et plus précisément, donc, l'eunuque éthiopien lit, est-ce une coïncidence, le passage que l'on appelle celui du serviteur souffrant dans la prophétie d'Ésaïe. Et comme tout le monde, il se demande qui est ce serviteur souffrant. Ce serviteur est-il Ésaïe lui-même ? Ou est-ce une allégorie désignant le peuple juif ? C'est ainsi que l'on posait la question à l'époque. Et puis les chrétiens y ont vu l'annonce prophétique du Messie et de Jésus torturé. C'est la question que l'eunuque pose à Philippe. Qui est ce serviteur souffrant ? L'eunuque cherche un maître, un expert, pour lui expliquer cela. Et Philippe va répondre, mais pas de façon dogmatique. Philippe n'est pas un gourou. La première parole du diacre, c'est « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il ne lui demande même pas s'il est juif. La religion n'a rien à voir ici. Il ne dit pas non plus « Ce serviteur, c'est Jésus. » Après, bien sûr, il va parler de la bonne nouvelle de Jésus. Mais il ne lui impose pas un dogme. Il ouvre ainsi une nouvelle façon d'être chrétien. Il ne s'agit pas d'enseigner une interprétation officielle, d'enfermer le croyant dans une pensée unique, mais d'ouvrir l'intelligence, de faire en sorte que dans la communauté, chacun, avec sa propre liberté et sa propre clairvoyance, cherche son chemin individuellement. Nous passons d'un judaïsme orthodoxe à un christianisme libéral. Enfin, c'est ainsi que je le vois. Ça, c'est la révolution copernicienne, le basculement dont je parlais. Pas d'enseignement strict imposé, mais le souffle de l'esprit qui souffle où il veut, comme le dira Jean quelques décennies plus tard. Et l'eunuque va pouvoir cheminer sans mettre à penser. Dès lors, en effet, plus rien ne s'oppose à ce que le simple diacre baptise l'eunuque étranger. C'est la question de l'eunuque. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? L'eunuque éthiopien est donc le premier païen baptisé avant le centurion Corneille, qui sera baptisé par Pierre deux chapitres plus loin. Et il est baptisé par un diacre, même pas un apôtre. Et on peut dire que Dieu s'est donné du mal pour arriver à cette situation. Si vous avez bien écouté, l'Esprit de Dieu intervient directement 3 fois en 15 versets. C'est l'importance de cette évolution aux yeux de Dieu ou du rédacteur. Après, une fois cette liberté affirmée, tout change. Saül va devenir Paul, l'apôtre des païens. Pierre lui-même va abandonner une interprétation littérale des textes et accueillir Corneille, le centurion romain, et comprendre que l'on ne peut dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur, et même que la nourriture des païens n'est pas impure. Paul expliquera dans son épître aux Colossiens que la circoncision physique n'est plus une condition pour être sauvé aux yeux de l'Éternel. Le Deutéronome, je vous l'ai lu, parlait déjà la circoncision du cœur. Le message du Christ est devenu universel. Cette liberté, cette ouverture d'esprit, malheureusement, gêne. Au milieu du deuxième siècle, un siècle plus tard, on va ajouter au texte du livre des Actes un verset qui n'était pas dans la traduction là, enfin qui est en bas de page. L'eunuque répondit : Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans l'original, bien entendu, l'eunuque accède au baptême sans la moindre confession de foi. Parce que ce qui compte à ce moment-là, c'est non pas le credo, mais la foi, une confiance en Dieu et en Jésus. Cette belle confiance, cette belle liberté de la démarche, va subir plus tard bien des vicissitudes. Au IVe siècle, l'empereur Constantin, pour des raisons plus politiques que théologiques, va organiser des conciles appelés écuméniques. Le premier, c'était à Nicée, afin de renforcer ce rêve néfaste d'une communauté unifiée par une pensée unique, et ils vont fixer des dogmes et condamner des hérésies. Les IVe et Ve siècles, notamment, vont être marqués d'une lutte féroce, une guerre de religion, entre le catholicisme de Nicée et l'hérésie arianiste, autour d'idées complexes et de conceptions byzantines, c'est le cas de le dire, de la Trinité. Nous avons commémoré, en août dernier, à l'oratoire, les 450 ans de la Saint-Barthélemy. Ça ne s'est pas arrangé depuis. Il y a eu le XXe siècle, avec le génocide des Juifs d'Europe. Les procès de cette année nous ont rappelé les attentats islamistes de 2015 et 2016. Songeons aussi aux femmes persécutées en Iran, en Afghanistan ou ailleurs, qui meurent pour le droit de se vêtir à leur gré. Songeons à nos frères chrétiens d'Orient. Mais sans oublier que les musulmans sont eux-mêmes persécutés en Chine, en Birmanie, en Inde, en Palestine occupée. Des catholiques, il y a quelques années, ont posé des engins incendiaires dans des cinémas qui projetaient « La dernière tentation du Christ » de Martin Scorsese ou « Une affaire de femme » de Chabrol. Des protestants fondamentalistes aux USA ont tué des médecins pratiquant l'IVG et dynamité des hôpitaux pour cette raison. Aucune religion n'est épargnée par le fanatisme. L'exemple de Philippe et de l'eunuque ne nous a guère inspirés. Pour tenter de conclure, on peut remarquer qu'à la fin de l'épisode, tandis que Philippe, lui aussi transformé par cette expérience et enlevé par l'Esprit de Dieu, part évangéliser toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à Césarée, l'eunuque, lui, poursuit sa route joyeux, dit le texte, joyeux. Joyeux de cheminer dans sa propre intelligence personnelle de la parole de Dieu, joyeux d'avoir appris à penser Dieu par lui-même. Que cette joie demeure. Amen.